autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour porter un autre regard sur la fabrique de notre humanité. Quels mécanismes ont poussé les humains que nous sommes à vivre en société et à coopérer ou pas, à faire famille, clan, religion, nation, à rendre la justice, à concevoir l'économie? Et si, pour mieux comprendre la fabrique de l'humanité, titre de l'ouvrage de notre invité, l'anthropologue Pascal Boyer, formidable empêcheur de penser en rond, titulaire de la chaire d'anthropologie cognitive à l'Université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis, il était temps de convoquer non plus seulement les sciences humaines, mais aussi la biologie évolutive, la génétique, la psychologie, les neurosciences, dont les avancées nous ouvrent sur une nouvelle compréhension plus large de notre nature et de nos cultures, de ce qui nous meut et nous émeut. Autour de la question comment notre nature humaine, à commencer par notre cerveau d'ailleurs, éclaire la manière dont nous faisons société, bienvenue pour commencer par rire un peu de nous-mêmes, ça ne fait jamais de mal, surtout quand il s'agit d'un extrait de la série d'animation Silex and the City, signé Jules pour Arte, consacré à l'évolution pour tous, oui pour tous, même si ça ne plaît pas à tout le monde.
C'est quoi cet attroupement ?
Oh là là, c'est encore les veilleurs-cueilleurs. Ils manifestent tous les soirs contre l'évolution pour tous.
C'est quand même dingue qu'un mouvement aussi important puisse exister uniquement pour empêcher certains êtres vivants d'avoir les mêmes droits que les autres.
Oh, il y a le père Lemuriot, le curé de la paroisse de Raon. Il a inventé le feu, lui.
Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur Erectus de Nazareth dans les Évangiles. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, il est dit « Seigneur, délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentacule. »
Venez chanter avec nous contre la pensée unique, Bobo Sapiens.
Mais en quoi est-ce que le fait qu'un être vivant veuille avoir sa place dans la sélection naturelle vous gêne, franchement?
Ah mais j'ai rien contre. Les amibes et les bactéries qui passent leur temps à changer de sexe, ils font ça discrètement. Il n'y a pas besoin d'une loi pour leur donner soi-disant le droit d'évoluer. Le problème, c'est que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Demain, ils vont réclamer le droit à l'évolution pour autrui, le coup d'après, ce sera l'évolution médicalement assistée.
Pardon, mais ça existe déjà, hein.
Et oui, ça existe, l'évolution pour tous, en guise de clin d'œil pour vous accueillir. Pascal Boyer, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous autour de votre nouvel essai qui devrait faire date, La fabrique de l'humanité, paru en français chez Robert Laffont, et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Et franchement, ça vaut le détour, car l'anthropologue franco-américain que vous êtes, Pascal Boyer, aujourd'hui titulaire de la prestigieuse chaire Henry Luce d'anthropologie cognitive à l'Université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis, après avoir été chercheur au CNRS, fellow au King's College de Cambridge au Royaume-Uni et anthropologue de terrain chez les Fang au Cameroun. Pascal Boyer, vous êtes déjà l'auteur d'un premier essai remarquable et remarqué, Et l'homme créa les dieux, comment expliquer la religion, essai qui a même inspiré un auteur de bande dessinée chez Futuropolis, Et l'homme créa les dieux, autre ouvrage en bande dessinée que nous vous ferons gagner au cours de cette émission, chers amis auditeurs, car l'anthropologue que vous êtes donc, Pascal Boyer, est d'abord un formidable empêcheur de penser en rond qui se nourrit de toutes les disciplines et pas seulement des sciences humaines. Vous convoquez aussi la biologie de l'évolution, les neurosciences, la psychologie, la génétique, pour étudier, est-ce qu'on peut dire comme ça, les sociétés humaines comme des objets naturels. Est-ce que c'est ça et est-ce que c'est possible d'abord ?
C'est un peu l'objet, oui, j'espère que c'est possible, puisque c'est ce que j'essaye de faire pendant 350 pages. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de rapporter le fait que les sociétés humaines sont déjà étudiées comme des objets naturels et nos dispositions à faire la société comme des dispositions naturelles par beaucoup de gens, mais que ces recherches ne sont pas connues. Et elles ne sont pas connues alors qu'elles portent sur des sujets comme... comment on organise la famille? Est-ce que toutes les religions sont les mêmes? Est-ce que le sens de la justice est le même chez tous les êtres humains? Pourquoi diffusons-nous des nouvelles qui sont des nouvelles mauvaises, bonnes et quelquefois des fake news? Toutes ces questions sont abordées sans regarder deux choses qui sont très importantes et qui ont été étudiées par pas mal de gens au cours des 30 dernières années, qui sont, quelle est la psychologie humaine qui fait tout ça? C'est-à-dire comment marche le cerveau humain pour faire tout ça. Et aussi, quelles sont les variétés de ces choses, la variation que trouvent dans les cultures humaines. Et très souvent, quand on parle de questions comme l'organisation de la famille, du couple, la religion, la justice, on pense, philosophiquement, nous pouvons résoudre ces questions. Je pense que c'est plus intéressant, avant d'y penser philosophiquement, d'essayer de voir comment l'espèce humaine se débrouille avec cela.
Comment l'espèce humaine, donc tous les humains que nous sommes au cours des années, dans les différents lieux dans lesquels nous vivons, et pour sortir aussi de ces espèces de manichéisme ou antagonisme, voilà. Nature-culture, inné-acquis. Vous vous dites, au fond, c'est plus complexe que ça, et finalement, on a presque besoin, non pas d'une science nouvelle, mais d'une science qui s'intéresse à la fois à nos comportements sociétaux, à nos comportements individuels, qui les analyse quoi ? Non pas d'en haut, mais différemment, de manière un peu décalée ?
Oui, voilà, parce que la disposition, ce qui est la nature des humains, c'est d'être des acquéreurs de connaissances de la part d'autres humains. Et c'est-à-dire que la chose la plus naturelle des hommes, c'est d'avoir des cultures, c'est d'avoir des connaissances qui sont transmises par les autres. Alors, une fois qu'on sait ça, on se dit, mais comment peuvent-ils acquérir toutes ces connaissances ? Et on s'aperçoit que quand on compare des espèces, les espèces qui acquièrent plus d'informations des autres sont aussi celles qui ont plus de préparation, qui ont plus de software, pour ainsi dire, pour les acquérir.
C'est-à-dire quoi ? Un cerveau plus plastique,
Peut-être plus plastique, mais surtout un cerveau qui a déjà des dispositions à apprendre certains sujets et à recouvrir certaines informations. Dans le livre, par exemple, je dis simplement que on ne peut pas acquérir des informations de l'environnement si on n'a pas la disposition de reconnaître cet environnement. Alors, par exemple, un saumon sait très bien faire la différence entre de l'eau salée et de l'eau moins salée, et de l'eau encore moins salée. Un nageur humain ne sait pas le faire. Pour un nageur humain, ça ne fait pas partie de l'environnement. Pour un saumon, ça fait partie de l'environnement. La plupart des oiseaux qui migrent savent reconnaître que la longueur du jour a dépassé une certaine valeur très précise. Les humains n'en sont pas capables. Donc pour les humains, ça ne fait pas partie de l'environnement.
Donc pour les humains, c'est de la culture, ça s'acquiert.
Ça peut s'acquérir, mais ça peut aussi ne pas s'acquérir. Par exemple, il y a des tas d'aspects de l'environnement que nous ne remarquons pas du tout et que d'autres animaux reconnaissent. Alors, l'idée de cette perspective où on mêle l'anthropologie, les neurosciences et l'évolution, c'est de dire regardons notre espèce comme une espèce parmi d'autres avec toutes ces choses que nous pensons être complètement naturelles, normales. Et comme quelque chose d'assez étrange qu'il faudrait expliquer.
Une autre espèce nous regardait, ou de la manière dont les éthologues étudient les autres espèces, notamment animales. C'est ça.
C'est pour ça que dans l'introduction du livre, je parle de cette idée amusante que si l'anthropologie s'était faite par d'autres animaux, ils nous trouveraient très étranges. Par exemple, les gorilles trouveraient très bizarre que les leaders de groupe ne soient pas les plus gros et les plus musclés dans le groupe. Voilà, parce que chez les gorilles, c'est comme ça. Des chimpanzés, alors c'est encore plus amusant.
Oui, allez-y.
Ils trouveraient que les humains parlent de sexe tout le temps, ils chantent, ils en font des poésies, ils en font des films et des romans, etc. Mais ils ne le font jamais. Alors, évidemment, ils le font de temps en temps.
C'est l'anthropologue chimpanzé ne le font jamais.
Voilà, exactement. Pourquoi ne jamais le faire ? Il y a d'autres choses qui sont encore plus extraordinaires pour nos anthropologues d'autres espèces. Par exemple, pourquoi les pères, les hommes qui ont un enfant, s'en occupent-ils ? Alors que dans beaucoup d'espèces, la plupart des espèces des primates, ils ne s'en occupent absolument pas.
Donc là, il faut voir pourquoi. Voilà. Est-ce que notre cerveau est câblé pour Parce que vous dites bien, à un moment, vous dites l'humain est une machine à apprendre et à croire aussi, d'ailleurs, parfois. Votre précédent ouvrage, c'était l'homme créa les dieux. On est bien d'accord. Donc finalement, notre cerveau est câblé pour apprendre, pour croire aussi, et pour croire à des choses qui ne sont pas toujours justes.
Ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est un sujet qui
oui, c'est énorme, hein,
de
on va pas
ces jours-ci nous concerne de plus en plus parce qu'on pense beaucoup que l'être humain est une machine à avaler n'importe quelle croyance de la part des autres. Ce qui est en gros généralement faux. Et c'est-à-dire que le...
Ouais, c'est pas aussi simple qu'on le croit.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Eh ben d'abord, c'est une expérience qu'on a tous les jours. On ne convainc pas les autres de n'importe quelle idée. C'est tout à fait difficile. Si pour séduire quelqu'un, il suffisait de lui dire « Mais je suis formidable », ce serait très très bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Donc, je crois qu'il y a une. Les psychologues qui étudient ça diraient oui, beaucoup de gens colportent des idées. Et des idées quelquefois très bizarres. C'est-à-dire que. Tu dis dans le livre, je parle un peu de ces idées, par exemple, qu'il y a très souvent en Afrique et en Asie, quelqu'un peut tout d'un coup. Un homme dans une foule peut tout d'un coup s'écrier que quelqu'un lui a volé son pénis. Mmh, voilà. Mmh. C'est quelque chose qui est assez répandu. Un très brillant anthropologue, Julien Bonhomme, a écrit un très beau livre là-dessus, Les voleurs de sexe. En Europe, on a on a eu bien sûr des paniques de sorcellerie pendant très longtemps, et puis on a eu des choses du genre, en Angleterre pendant 20 ans, des paniques sur le fait que des parents soumettaient leurs enfants à des rituels sataniques. Mmh. Sexuel et satanique et tout ça, qui est évidemment n'était basé sur rien du tout, mais qui était ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire qu'on s'affole sur le fait que quelque chose de très grave est en train de se passer, sans trop chercher exactement quels sont les faits ou quelles sont les données.
Mm-hmm. Et ça, c'est quoi ? C'est dans le cerveau humain ? Il y a on deux... est câblé alors... pour ça ?
Non, je ne pense pas, parce qu'il y a deux façons de penser à ça. Une, c'est de dire. Le cerveau humain est ouvert comme avec des fenêtres ouvertes pour n'importe quoi qui y entre. Et ça, je ne crois pas que c'est le cas. On a beaucoup d'expériences en psychologie pour dire que ce n'est pas le cas. Il y a même un psychologue, Hugo Mercier, qui va publier un livre en France là-dessus, qui est sur le fait que l'homme n'est pas né d'hier, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne croit pas n'importe quoi.
Donc il ne gobe pas n'importe quoi.
Voilà,
il ne gobe
pas. Mais par contre, il est vrai que certaines croyances très bizarres ont une fonction, ont la fonction par exemple de signaler qu'on fait partie d'un certain groupe et pas d'un autre. Mmh. J'ai, par exemple, aux États-Unis, on rencontre pas mal de gens qui vous disent que le sida a été fabriqué par les autorités américaines pour tuer beaucoup de gens, et souvent les gens disent pour tuer beaucoup de noirs. Donc ça, c'est une croyance, je ne sais pas si les gens la croient véritablement, mais quand ils le disent, on voit très bien que si notre réaction, c'est de dire « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr », ben on n'est plus dans le même camp avec ces gens-là.
C'est un signe d'appartenance, c'est pour dire j'appartiens,
et c'est pour tester aussi d'une certaine manière, est-ce que tu appartiens autant que je voudrais ou que je pense. Et donc si l'autre dit « Ah ben oui, ça doit être vrai », c'est quand même la preuve qu'il fait partie du même groupe que vous.
Du même groupe, du même clan, de la même famille, oui. On y reviendra, ah oui, parce que vous traitez de toutes ces questions-là, autour de la question comment expliquer, grâce à notre cerveau, finalement, la fabrique de l'humanité. Pourquoi et comment les sociétés peuvent-elles être justes ? Tiens donc, comment expliquer la morale ? On y vient. Oui. Notre cerveau humain est-il câblé, je ne sais pas, pour faire la différence entre le bien et le mal ? À ce sujet que vous traitez, Pascal Boyer, je vous propose l'éclairage d'un autre chercheur en anthropologie, en psychologie, en philosophie et en sciences cognitives, que vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage. C'est le professeur Nicolas Baumard, aujourd'hui professeur à l'École normale supérieure, directeur de recherche au CNRS. Nous avions reçu Nicolas Baumard ici même il y a quelques années, à l'occasion de la parution de son livre qui s'intitule « Une histoire naturelle du bien et du mal ». On écoute Nicolas Baumard et vous réagirez ensuite.
On sait tout ce que c'est que le bien et le mal. On sait que voler, c'est mal. On sait quand on fait du mal aux gens, quand on est injuste. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Tout autour de la planète, les gens pensent en termes de bien et de mal. Ils ne peuvent pas s'empêcher de condamner les autres quand ils sont trop égoïstes, etc. Et l'idée, c'est que c'est un sentiment naturel. On a tous un sens moral, une disposition universelle, partagée par toute l'humanité, qui nous fait voir le monde en bien et en mal. Je prends l'exemple du langage. De la même manière, quand on vous parle en français, vous ne pouvez pas vous empêcher d'entendre la phrase, de la décoder, de la comprendre en français. Là, c'est pareil. Quand on vous raconte une histoire, quand on vous écoute les informations qu'on vient d'entendre, vous ne pouvez pas vous empêcher de se dire « Ah, là, c'est bien fait, là, c'est juste », et ou de vous indigner. Et, voilà, et ça vient de notre sens moral.
Donc, ça serait une sorte de grille de lecture commune à tous les hommes et qu'on pourrait donc étudier très scientifiquement.
C'est ça l'idée, c'est qu'on peut étudier ces jugements, essayer de comprendre leur logique. Donc, dans la vie de tous les jours, on ne pense pas à cette logique, on exprime nos jugements, on dit « voilà, on condamne », on approuve, on agit bien ou mal, et l'ambition du livre, c'est d'aller au-delà et de savoir pourquoi on se comporte bien, pourquoi on se comporte mal, puisqu'en fait, nous, on n'en est pas réellement conscient. Quand on dit c'est bien, c'est mal, on n'est pas au courant des raisons pour lesquelles on fait le bien ou le mal.
Est-ce que vous partagez l'opinion de Nicolas Baumard, Pascal Boyer ?
Oui, moi, je crois que c'est tout à fait pertinent. Il l'a dit de façon très simple. Et il a dit aussi quelque chose de très, très important. Là, c'est que les raisons pour lesquelles nous avons cette sensibilité et cette réaction immédiate à quelque chose qui est bien ou qui est mal, ne sont pas des choses dont nous sommes conscients complètement. Et ça, c'est très important parce que on pense quelquefois que la manière dont les gens acquièrent leur valeur morale, en quelque sorte, c'est parce qu'on leur dit, explicitement, voilà, voler l'argent d'une vieille dame qui vient de recevoir sa retraite, c'est pas bien du tout. Et en fait, c'est assez invraisemblable que ça se passe comme ça. D'abord parce que les enfants très jeunes ont des tas de connaissances morales et de sens moral bien avant qu'on leur donne beaucoup d'exemples. Ouais. Mais aussi pour une autre raison, qui est que si on apprenait comme ça avec des exemples, la seule chose qu'on apprendrait, c'est que voler l'argent des gens va vous mériter une punition, mais pas que c'est mal, mais que ça va vous mériter une punition. Or, quand Nicolas parle des gens, Nicolas Baumard parle de nous, êtres humains, qui avons tous ce sens moral, il faut dire que ce sont tous les êtres humains normaux, mais qu'il y a des gens qu'on appelle psychopathes qui n'ont justement pas ce sens. Et ça, c'est très important pour les psychologues, parce que ça montre qu'est-ce qui se passe quand cette capacité n'existe pas. Et du coup, par défaut, ça nous montre en quoi consiste cette capacité.
C'est-à-dire que cette capacité, elle est naturelle.
Vous n'aimez pas les mots innés ou acquis. Elle est tout à fait naturelle. Moi, je n'aime pas le mot inné parce que non, c'est simplement parce que les mots inné inné voudrait indiquerait en quelque sorte que c'est présent très tôt chez l'humain. Et c'est tout à fait.
Au fond, c'est aussi l'évolution de notre cerveau. Mais c'est bien sûr, voilà, c'est ça exactement qui fait notre morale. C'est ça que vous dites finalement.
Et mais alors, par exemple, pour en revenir à ces gens psychopathes, eux, ils apprennent vraiment la morale comme ça. C'est-à-dire qu'ils apprennent que dans notre société, si je vole, il y a une certaine probabilité que j'irai en prison. Ça, c'est désagréable. Mais si je me débrouille bien, je n'irai pas et du coup, je le fais. Et donc, eux, ils ont vraiment appris la morale comme une série de règles que leur donnent les autres. Par contre, les gens normaux, comme nous tous, j'espère, dans cette salle, ont appris la morale comme une série d'exemples qui éveillent un sens qu'on a déjà, qui éveillent un sens qui est simplement que priver, par exemple, l'autre de ses ressources et de son bien-être quand il ne vous a rien fait est quelque chose qui engendre un certain sentiment de malaise et que c'est quelque chose qu'on doit éviter et qui nous dégoûte quand on le voit faire ou quand on sait que les autres le font. Ça, c'est un sens que nous avons qui peut être éveillé par les bons exemples, mais qui n'est pas donné par ces exemples.
Et c'est dans ce sens-là que c'est notre cerveau, enfin pour le dire très simplement, qui a fabriqué finalement la justice, puisque vous parlez beaucoup de. Enfin, on met en question est-ce que une justice humaine existe et c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'au fond, on est câblé pour ressentir ce qui fait du mal à l'autre. On a des notions morales, c'est notre cerveau et corps, les deux vont ensemble, on n'a pas un cerveau tout seul, qui nous fait être bon ou mauvais, coopérer ou pas, faire société, c'est ça ?
Oui, mais avec aussi une autre précision, c'est que ce qui compte pour ce qui a fait notre cerveau, c'est quand même les circonstances dans lesquelles nous avons évolué. C'est-à-dire que les espèces sont ce qu'elles sont à cause des environnements dans lesquels certains traits étaient plus adaptifs que d'autres. Alors, nous sommes les héritiers de gens qui ont fait 300 000, 500 000 ou plus années à vivre dans des petits groupes, à être surtout des chasseurs-collecteurs et à vivre en société qui peut-être avait des groupements plus grands de 500 personnes, mais c'est à peu près tout.
Donc on n'est pas habitué à être aussi nombreux, à être ça, des nations, des
d'une
États,
certaine, voilà, d'une
et,
certaine
et voir
manière,
un
voilà.
monde globalisé comme on le
Alors,
vit aujourd'hui.
C'est pour cela que, c'est quelque chose dont je parle dans le premier chapitre du livre, nous avons tendance à parler des nations, des ethnies, des grands groupements humains, comme si nous parlions de petits villages. Et ça informe notre manière spontanée de penser à ces relations, Et ça fait que très souvent, par exemple, nous ne comprenons pas très facilement comment marche la politique internationale, le commerce international, parce que nous les pensons en termes de villages qui se font face, qui devraient s'affronter ou pas s'affronter, faire la paix, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à cause de cette vie en petits groupes, nous avons par exemple une morale du partage, c'est-à-dire que nous pensons que quand il y a des ressources, et surtout des ressources qui sont un peu aléatoires, comme les ressources de la chasse, ce serait quand même très bien de les partager. Et la raison pour laquelle nous avons une éthique, une motivation de partage comme ça, c'est pas par une
grandeur d'âme.
C'est pas par, exactement par grandeur d'âme, mais c'est par évolution. C'est que simplement c'est une forme d'assurance. C'est-à-dire que comme ces ressources sont aléatoires, être généreux quand on les a, ça vous garantit d'avoir des gens qui seront généreux avec vous quand vous ne les avez pas. Et donc ça fait une certaine. Alors les anthropologues qui ont pensé cette question, se sont dit, alors, les gens devraient être moins enclins au partage quand les ressources sont moins aléatoires. Et c'est le cas.
Au fond, quand elles sont plus abondantes...
Quand elles sont plus régulières. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en aura, on a moins tendance à les partager. Donc, il y a une idée de partage comme ça qui vient des ressources aléatoires. Alors, si vous pensez que tout ça, ce n'est que des histoires de gens qui vivent dans la savane en petits groupes, c'est pas du tout le cas. Parce que quand les gens pensent à l'assurance médicale ou au chômage ou à des choses comme ça, ils peuvent y penser de deux manières différentes. Et une de ces manières, c'est le partage. C'est-à-dire, ça pourrait nous arriver à tous d'être demain au chômage ou d'être malade. Donc, ce serait bien qu'il y ait un système par lequel les autres contribuent à nous aider. Et je suis prêt à y contribuer, moi, parce que ça pourrait m'arriver un jour. Ça, c'est une façon d'y penser.
Ça serait bien de cultiver cette façon-là de penser. On va y revenir.
Mais il y en a une autre et on y reviendra
tout à l'heure. Il y en a une autre et il y en a d'autres. Et justement, j'ai envie de vous poser finalement la question inverse. C'est-à-dire, on est câblé, vous l'avez dit, pour... peut-être pas dès le départ, mais en tout cas, on est câblé pour reconnaître le bien et le mal. Ce qui est plutôt bien nous fait du bien, ce qui est plutôt mal nous fait du mal. Mais alors pourquoi est-ce que parfois on se réjouit de voir les autres avoir mal ou se faire mal? Je sais que c'est pas bien, mais ça s'explique aussi dans notre cerveau. La preuve tout de suite avec le professeur Moustache alias François Morel, le savant qui a réponse à tout dans la série animée de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête, diffusée sur Arte. Et cette fois-ci donc, pourquoi se réjouit-on du malheur d'autrui?
C'est dégueulasse! Tu m'étonnes que le monde aille mal! Les gens sont tellement sadiques!
Mais non! Jean-Paul nous fait juste une petite crise de Schadenfreude.
Quoi?
Schadenfreude. Comment traduire ça? Disons, joie mauvaise en allemand. Ça arrive à tout le monde devant le malheur d'autrui.
Ben non!
Monsieur, le Schadenfreude est l'œuvre du striatum ventral du cerveau, là. En temps normal, c'est lui qui gère, entre autres, l'appétit ou la motivation.
Allez, finis ce tableau Excel et t'auras double ration de frites à la cantoche. Youhou.
J'ai eu une augmentation de 3000 euros, les gars. Youhou.
Ah, bravo, Jean-Denis.
Wow, c'est fou. Ouais.
Bravo Jean-Denis.
Non, mais de rien.
Mais parfois, le striatum provoque aussi ce petit plaisir sadique qu'on ressent quand une enflure qu'il a un peu trop ramenée se rétame.
Bien fait.
Le nul. J'ai jamais pu le saquer, de toute façon.
On le fait tous. Toi aussi, Nat.
Non! On m'a appris l'empathie, moi, monsieur.
Ah, mais le Schadenfreude ne s'apprend pas.
Oh, j'entends rien. Non, je comprends,
Nathanaël. Éprouver du Schadenfreude, c'est socialement super honteux. Pourquoi croyez-vous que Jean-Paul regarde les télé-réalités?
C'est affreux, Kiki Lune. Vous chantez comme une meule.
En vérité, on regarde ces émissions parce qu'elles nous permettent de schadenfreuder sadiquement en groupe de manière totalement décomplexée, mais oui.
Grosse maligne, ça t'apprendra à te la péter.
L'humain est une crotte.
Oui, c'est vrai, mais vous pouvez aussi lui présenter des émissions de qualité qui vont stimuler son lobe frontal, zone de la logique, de l'apprentissage et du jugement. Comme par exemple, Tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça...
Avec ça, on peut aussi nous écouter, nous, sur RFI, autour de la question de la fabrique de l'humanité. Votre ouvrage, Pascal Boyer, à lire et peut-être à recevoir en cadeau, si vous avez de la chance et que vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, chers amis auditeurs et auditrices. Alors, en quoi, Pascal Boyer, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un malin plaisir à voir les autres, surtout les enflures, se faire du mal. Je vous ai vu rire pendant tout l'extrait et partager finalement.
C'est un sentiment qu'on partage tous. Et d'ailleurs, le linguiste Steve Pinker disait que c'est un très bon exemple de quelque chose qu'on connaît tous et pour lequel certaines langues ont un mot et d'autres n'en ont pas. Et le mot Schadenfreude a été importé en anglais, maintenant aux États-Unis, en Angleterre, tout le monde le connaît. Et quand on a importé ce mot, ce n'est pas le cas que les gens se soient dit « Tiens, cette émotion, je n'arrive pas à comprendre de quoi les gens parlent. » On comprend immédiatement de quoi il s'agit.
Oui, la personne qui
vous embête, qui est prétentieuse et qui réussit, trébuche, c'est quand même assez satisfaisant. Et je crois que c'est pour une raison aussi qui fait partie de notre façon de penser qui résulte de notre évolution, c'est que les êtres humains, évidemment, ont une motivation, comme je disais, de partager par assurance, mais ils ont aussi de la compétition. Et ils sont toujours en compétition pour leurs ressources et pour acquérir des partenaires, par exemple, romantiques. Et aussi pour acquérir du statut social, d'avoir de l'importance dans un certain groupe.
Donc au fond, on veut des ressources, on veut de l'importance et du pouvoir, et on veut des amours et du sexe.
Sur quoi portent les cancans, pour les envies, etc. Là-dessus. C'est uniquement là-dessus. Et cet exemple des cancans ou des rumeurs est très bon parce que très souvent, il consiste à rabaisser celui qui pensait qu'il était un peu trop grand. Et il y a une certaine irritation au pouvoir, par exemple, au statut qui n'est pas totalement mérité, qui nous fait avoir beaucoup de plaisir quand
les
baudruches sont dégonflées un petit peu. Alors ça, c'est pas très étonnant, mais en même temps, ça vient de quelque chose qui est très humain, qui est l'extrême sensibilité au statut, à la hiérarchie. Ça, ce sont des choses qui sont...
Très humaines,
foncièrement
humaines.
Oui, tout à fait. Parce
la hiérarchie est quelque chose de foncièrement humain.
La hiérarchie, ça existe dans beaucoup d'espèces, pas que chez les humains.
Ceci dit, la semaine dernière, on a fait une émission sur les fourmis et il n'y a pas vraiment de hiérarchie.
Il y a des castes, alors c'est quand même...
Vraiment de chef et c'est différent des humains.
Voilà, c'est distribué. Mais alors, les humains ont des hiérarchies qui sont légèrement différentes de celles des autres animaux parce que chez les êtres humains, ce ne sont pas seulement des hiérarchies pour consommer des choses. C'est par exemple, chez les gorilles, il y a un mâle qui monopolise les femelles. Là, en ce sens, il y a une hiérarchie très claire. Ça, c'est la hiérarchie de consommation. Mais il y a aussi des hiérarchies de production chez les humains. C'est-à-dire, quand on fabrique des choses, quand on mène des actions collectives, comme construire des villages, défricher des choses, etc., il s'instaure très, très rapidement des hiérarchies. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'organiser le travail, d'organiser la production, qui nous est très naturelle. Alors, ça crée des différences de statut, des différences de réputation et tout cela. Et ces différences de statut créent aussi la motivation, quelquefois, de rabaisser un peu celui qui pense qu'il est déjà très haut.
On comprend un petit peu mieux notre nature humaine, si humaine, trop humaine, autour de la question comment justement notre nature humaine peut éclairer la manière dont nous faisons société, la manière dont nous fabriquons notre humanité, toujours en devenir, toujours en évolution et toujours en question. On continue de s'interroger à l'écoute de Rag & Bone Man, morceau choisi pour vous, Pascal Boyer, et qui s'intitule « Human ».
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived? in what you believe. 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.
I'm only human after all. Et ce n'est pas vous qui direz le contraire, cher Pascal Boyer. Rag & Bone Man sur RFI. Vous êtes anthropologue, je le rappelle, auteur d'un ouvrage très original qui secoue un peu le cocotier de nos idées reçues, intitulé La fabrique de l'humanité, comment notre cerveau explique la famille, l'économie, la justice, la religion. Publié aux éditions Robert Laffont, nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices. Pour comprendre, allez tiens, comment nous faisons famille? Et pourquoi y a tant de manières différentes chez les humains de faire famille, modèle plus ou moins harmonieux, plus ou moins conflictuel, selon les lieux et les époques? Mais que dit la science de la diversité et des caractéristiques partagées par toutes les familles du globe? Avant de vous laisser répondre, Pascal Boyer, je vous propose juste pour le plaisir de nous arrêter sur Ma Famille, une série télé ivoirienne à succès, avec cet extrait assez génial d'un épisode intitulé Révolte.
Bonjour Teissa, comment tu vas?
Ça va un peu que bien. Okay. C'est à la maison ici que ça va pas.
Ah bon? Et qu'est-ce qui ne va pas?
Hier soir, quand ton papa sortait, il a dit à ta grand-mère de rentrer chez elle. Elle n'a pas voulu, elle a passé la nuit ici.
Ah bon, c'est tout ça le problème?
Non, c'est pas tout.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Aïe, ça c'est quelle question ça? Je n'ai pas le droit d'être ici.
Écoute mamie, tu as jusqu'à 2 cours.
Mais ces cours-là sont remplis de locataires. Si tu t'ennuies tant, va faire parler à tes locataires. Là. Et puis laisse le monsieur tranquille.
Quel monsieur?
Mais je parle de ton fils, bien sûr.
Ah, Dieu merci. Tu dis bien mon fils. Tant que ce monsieur-là sera mon fils, je ferai tout pour le protéger.
Tu vas faire quoi, le protéger? De quoi?
Des vautours, et tu les connais.
Ramassez-moi tout ça.
Et si je ne ramasse pas, tu vas me faire quoi?
J'ai dit de me ramasser tout ça.
Et si je ne ramasse pas là, tu vas me faire quoi même?
T'avais dit non.
En toi, tu me fous la paix là-bas. Hein?
Attends, regarde, si quelqu'un doit foutre la paix ici, là, c'est toi. Nous, on était tranquilles ici, tu as débarqué du village avec tes bagarres en point fini. Mais il faut que mamie te ramène comme ça, nous, on sera tranquilles.
Extrait de Révolte dans Ma Famille, série télé ivoirienne à succès. Pascal Boyer, alors, pourquoi et comment nous, les humains, faisons famille, de manière plus ou moins réussie d'ailleurs, mais on fait famille partout sur le globe et on a toujours fait à toutes les époques.
Oui, je dois dire que c'est très amusant d'entendre cet extrait parce que au cas où des gens auraient l'idée que la famille chez les autres, c'est très paisible, c'est très harmonieux, c'est absolument pas le cas.
Ben, c'est ça.
Et voilà, alors la famille, c'est un lieu de conflit. Autant que d'un lieu de protection et de coopération. La chose qui est intéressante, c'est que si on regarde ça d'un point de vue anthropologique et du point de vue de quelle est notre espèce et comment elle a des variétés culturelles, on voit qu'en fait, le terme famille est très inapproprié. Il n'y a pas vraiment de choses qu'on pourrait appeler la famille qui soit générale dans les sociétés humaines. Et d'ailleurs, il y a toutes sortes de choses qui nous semblent dans une culture tout à fait naturelle, enfin tout à fait normale et très étonnante dans une autre.
Quand c'est pas notre culture, voilà, enfin, c'est normal, mais dans celle des autres...
Par exemple, dans la plupart des endroits en Afrique, un homme et une femme qui sont mariés ne sont pas de la même famille, littéralement, puisqu'ils ne sont pas du même lignage. Sinon, ils ne seraient pas mariés. Donc, les enfants sont les enfants qui sont du lignage de l'un des parents, mais pas de l'autre. Et donc, d'une certaine manière, ils sont des étrangers plus que des parents pour une certaine partie de leur famille, de leur famille, de leur parentèle. Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, on pense, nous qui sommes occidentaux européens, nous avons des familles nucléaires toutes petites, et puis les autres, ils ont des familles étendues, plus grandes. Mais ce n'est pas vraiment ça ce qui se passe. Ce qui se passe plutôt, c'est qu'il y a des façons différentes d'agglomérer des êtres selon leur généalogie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la plupart des sociétés humaines et qui est un petit peu dévalué ou qui a moins d'importance dans les sociétés modernes.
Par exemple, c'est la généalogie plus que la famille.
Oui, la généalogie est très importante. La plupart des gens dans la plupart des sociétés humaines peuvent remonter à 3 ou 4 degrés de généalogie. Il y a des cousins du 3e ou 4e degré, ça n'est sans peine. Mais ce qui est par contre très commun et qui sans doute est très vieux dans l'histoire de l'humanité, c'est le couple. C'est-à-dire, c'est l'association d'un homme et d'une femme, et de leur famille s'il le faut, mais d'un homme et d'une femme qui partagent trois choses. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'une fois de plus, si on était un martien ou un chimpanzé, on trouverait que c'est très curieux. Un couple, c'est un homme et une femme, en général, qui partagent le sexe, qui ont une relation sexuelle, qui ont une grande solidarité économique, et qui élèvent les enfants ensemble. Et l'unicité de ces trois choses est quelque chose qui est unique à l'espèce humaine. C'est-à-dire que collaborer, il y a des espèces qui collaborent, mais ils n'ont pas d'exclusivité sexuelle. Les chimpanzés n'ont pas d'exclusivité sexuelle puisqu'ils sont très dans une grande promiscuité. Mais en tout cas, les pères ne s'occupent jamais de leurs enfants. Donc, ce nexus où il y a ces trois choses en même temps, c'est tout à fait humain, c'est spécial aux humains, et c'est général, c'est-à-dire ça sans doute date d'au moins 300 ou 400 000 ans.
Et ça, c'est la base, au fond, de toutes les familles, après, de toutes les déclinaisons de familles possibles.
Et après, il y a des systèmes extrêmement compliqués qui font la joie des anthropologues sur la manière d'organiser des lignages, des clans, des fratries, etc., qui organisent la société. Et la parenté, c'est l'organisation de la société dans la plupart des sociétés, disons, plus de petite taille, plus traditionnelles. Mais le couple vient sans doute, l'exclusivité, en quelque sorte, du couple, et le fait que c'est... en quelque sorte ouvert, on dirait open-ended, c'est dans le sens que une fois que c'est formé, ça n'est pas censé avoir une fin avant la mort des gens, ou mais enfin ça n'a pas de terme fixe. Cela vient sans doute de la division du travail, qui vient sans doute des capacités différentes des hommes et des femmes. C'est quelque chose qui est assez probable, c'est-à-dire que les hommes et les femmes vivent de cueillette, extraction de ressources naturelles et de chasse et pêche. Et les économistes diraient que les hommes ont un certain avantage comparatif dans la chasse et la pêche parce qu'ils sont moins immobilisés par les grossesses et par les enfants. Les enfants qui réclament beaucoup d'attention chez les êtres humains. Si on regarde ça comme préhistorien, on dirait qu'il y a eu une espèce de cercle vertueux qui s'est produit, qui est que les humains sont devenus de plus en plus intelligents parce qu'ils avaient des cerveaux de plus en plus gros. Mais quand on a des cerveaux de plus en plus gros, on a des têtes de plus en plus grosses. Et ça veut dire que quand on est né, on doit avoir une ouverture du bassin chez la femme qui soit suffisante pour laisser passer le bébé. Et il se trouve qu'elle ne peut pas être assez grande, très très grande, parce que nous sommes aussi des animaux bipèdes. Et donc, la mécanique de cela, voilà. Alors la solution de l'évolution, en quelque sorte, c'est pas que l'évolution cherche des solutions, mais elle les trouve de fait parce que il y a certains êtres qui perdurent plus, qui ont plus de potentiel évolutif. La solution de l'évolution, c'est simplement de faire naître les enfants trop tôt. Et par rapport à d'autres primates, nous sommes très prématurés quand nous naissons.
Et donc, nous avons besoin d'énormément,
voilà, d'énormément d'attention et d'énormément de présence et d'investissement de la part de femmes. D'un autre côté, ces mères qui doivent donner cet investissement s'ils veulent avoir une reproduction peuvent être menacées par toutes sortes de choses. D'abord, elles ont besoin de calories, elles ont besoin de provisions, de nourriture, qui peut être donnée par la chasse des hommes. Mais elles ont aussi besoin de protection. C'est-à-dire que la chose la plus dangereuse pour les femmes dans des contextes de ce genre, ce sont des autres hommes. Donc, il faut aussi être protégé. Alors, ce que diraient les préhistoriens, c'est qu'en quelque sorte, s'est établi un équilibre, qui est une sorte d'équilibre économique, entre les hommes qui peuvent produire plus et produire des calories dont on a besoin, et les femmes qui peuvent, par contre, fournir une certaine exclusivité sexuelle. Et que c'est ça le départ.
Et donc, c'est ça le couple, le départ. Voilà. Et c'est ça le départ de la famille aussi, qui maintenant s'étend de toutes les manières du monde, dans toutes les cultures du monde. Autour de la question comment notre nature humaine éclaire aussi nos sociétés humaines et nos choix de société. On va y revenir parce que parfois, ça peut sembler un peu réducteur, mais c'est pourtant très important de laisser comme ça tout ouvert, de ne pas se refermer sur soi et sur ce qu'on croit être une finalité. La biologie de l'évolution sur laquelle vous vous appuyez, Pascal Boyer, nous rappelle que rien n'est figé, que tout évolue, à commencer par notre cerveau et nos sociétés humaines. Excellent rempart contre toutes les formes d'intégrisme, on va dire identitaire ou autre. Comme nous l'expliquait ici même, ce que je vous fais entendre tout de suite, le philosophe Marc Répon, qui travaille sur les questions de violence dans nos sociétés, mais aussi d'inégalité. Son dernier ouvrage s'intitule « Le désir de résister ». On écoute Marc Répon et vous réagirez ensuite.
Il y a quelque chose qui me vient spontanément à l'esprit, c'est que rien n'est plus préjudiciable à la pensée que ce qui fixe les choses, ou que ce qui les considère comme innés, ou ce qui les considère comme originaires, ou comme ayant été là de tout temps. Donc ce piège identitaire que je dénonce, il vaut pour toute chose en réalité, pas seulement dans le cadre des identités politiques et individuelles. Et donc reconduire, dans le fond, ce que nous avons tenu pour toujours là, à sa genèse ou à sa généalogie, c'est évidemment un geste éminemment philosophique et très fort. C'est celui de Nietzsche, par exemple, dans la généalogie de la morale. Le geste que produit Nietzsche, dans la généalogie de la morale, c'est de dire, bien voilà, nos catégories du bien et du mal, les valeurs que nous considérons comme quasiment innées ou comme appartenant vraiment à l'essence de l'humanité, c'est pas vrai, elles ont une histoire qui demande une enquête et qui peut être reconstituée. Et ça vaut des religions aussi, ça vaut des valeurs. Donc l'idée que rien ne doit être excepté de cette enquête généalogique, ça me semble un geste qui relève visiblement pas seulement de la philosophie, mais aussi de l'ensemble des sciences humaines, qui est peut-être le geste politique par excellence que peuvent produire les sciences humaines.
Vous voulez réagir, Pascal Boyer, à ce que vient de dire le philosophe Marc Répon ?
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais juste me limiter à l'idée que, justement, ce qu'il appelle généalogie, c'est peut-être un peu ce que font la biologie évolutive ou la psychologie évolutive quand elle dit les choses qui nous semblent le fondement même de ce qui est humain viennent de notre histoire. Et effectivement, la biologie évolutive, c'est simplement de dire que l'histoire explique ce qu'on trouve maintenant. Alors, pour les gens qui trouveraient que tout cela est réducteur, essentialiste,
oui, c'est
et
ça,
tout ça,
ou voilà, ou
il faut dire que voilà, ça n'est pas parce que ce que nous donne notre évolution, c'est toutes sortes de sensibilités, de dispositions et de manières de réagir à nos environnements. Ceci dit, est-ce que nous les suivons de manière aveugle ? Pas du tout. Par exemple, nous sommes très bien adaptés comme espèce pour être des chasseurs et des collecteurs. Ben, la plupart d'entre eux, ne chassent pas et ne collectent rien du tout. Et depuis 10 000 ans, on fait de l'agriculture et assez bien, et de l'industrie depuis 200 ou 300 ans. Donc on peut faire toutes ces choses. Ça fait peut-être partie de notre manière d'évoluer, de réagir, par exemple, de dire que si quelqu'un bat notre enfant, on va essayer de le tuer. Peut-être que ça fait partie de notre héritage évolutif, mais enfin, on a quand même des tribunaux et des systèmes
c'est
de
ça,
justice.
C'est
donc,
ça.
Cette une idée que nous avons des dispositions qui nous viennent de l'évolution ne veut pas dire qu'elles sont inexorables, et qu'elles sont, ou même qu'elles sont, et surtout pas qu'elles sont positives. C'est-à-dire que je vais vous donner
juste un
tout petit...
C'est ça, au fond, c'est avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui nous meut, quoi, de ce qui... Oui.
Pour donner tous un tout petit exemple, dans beaucoup de sociétés qui vivent de subsistance, il y a de l'infanticide sélectif, c'est-à-dire que quand des bébés naissent qui n'ont pas l'air très vigoureux, en quelque sorte, on les laisse et puis la nature fait son travail. Je crois que c'est un résultat de l'évolution. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour des êtres humains, dans ces conditions dans lesquelles on a évolué, de se permettre le luxe de dépenser des ressources sur quelqu'un qui ne peut pas survivre à terme. Alors, est-ce que c'est beau tout ça? Non.
Pas vraiment, non.
C'est pas terrible.
Et donc, on peut, en le sachant, faire autrement.
Voilà. Et il est très probable que les gens, quand ils le font, n'ont pas l'idée qu'ils font quelque chose de très admirable ou de très beau. Ceci dit, c'est une de ces motivations que nous avons parce que les gens qui avaient cette motivation ont réussi à survivre et à transmettre leurs gènes, tandis que ceux qui ne l'avaient pas ne l'ont pas fait.
Et d'ailleurs, voilà. Vous questionnez, finalement, vous demandez pourquoi et comment nous avons coopéré pour faire société. Mmh. Et moi, j'ai envie de vous demander, Pascal Boyer, puisque vous travaillez sur ces questions-là, est-ce que le fait de le savoir, de connaître notre histoire naturelle ou notre, l'histoire naturelle de notre humanité, peut nous aider peut-être à mieux, à plus coopérer, à moins aller dans nos écueils, justement? Est-ce que ce sont des outils aussi, le fait d'en être un peu plus conscient?
Oui, je crois que ce sont des outils, mais la montagne est assez rude à monter parce que la plupart des idées sur nos sociétés sont non seulement des idées qui décrivent nos sociétés, mais ce sont aussi des motivations pour former un groupe contre d'autres groupes qui ont des idées différentes. Mm-hmm. Et dans ce cas, quand ces idées deviennent comme ça l'emblème ou un signe d'affiliation, il est très très difficile de simplement discuter des idées au lieu de dire... vous avez dit ça parce que vous êtes de tel camp et moi je vous réponds parce que je suis de tel autre.
Mettre en pratique, c'est compliqué.
Voilà,
hein,
donc
c'est
extrêmement difficile. Mais enfin bon, il faut espérer.
Il faut espérer. Alors vous nous avez laissé un petit cadeau aussi, Pascal Boyer, musical, un petit cadeau sonore qui vient de votre terrain, hein, chez les Fang du Cameroun. Vous nous avez fait parvenir un petit extrait de musique. Écoutez, on l'écoute et puis vous nous dites ce que c'est. Puis on se dit au revoir après. Hein.
Voilà, c'est très beau, alors c'est très court, hein, mais
c'est trop court.
C'est un fragment des épopées de Mvet, c'est-à-dire ce sont des longs récits épiques qui sont racontés au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Ce sont des aventures qui sont aussi intéressantes que l'Iliade et aussi compliquées, mais qui sont très peu connues parce que ça se passe dans l'Afrique tropicale. Voilà.
Eh ben voilà, donc à lire, à écouter, à se renseigner à propos de ces épopées fang du Cameroun. Merci Pascal Boyer de nous avoir amené ça dans vos bagages. Je rappelle le titre de votre dernier essai passionnant et inspirant, La fabrique de l'humanité, paru chez Robert Laffont, et dont, je vous le rappelle, nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis fidèles et curieux auditeurs et auditrices, nous avons aussi un exemplaire de la BD inspirée par votre précédent essai Et l'homme créa les dieux, signé Joseph Béhé aux éditions Futuropolis, à vous offrir en cadeau. N'hésitez pas à nous les demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bientôt, Pascal Boyer, merci.
À bientôt, merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast, disponible sur l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous demain, au-delà de notre système solaire, autour de la vertigineuse question, sommes-nous seuls dans l'univers? On n'y aura pas vraiment de réponse, mais il y aura plein de questions demain à suivre. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.